La semaine dernière, trois sociétés savantes internationales représentant des milliers de chercheurs et de cliniciens ont adressé aux 28 ministres européens chargés de l'environnement une lettre mettant en garde contre la faiblesse du projet de réglementation des perturbateurs endocriniens. Ce projet devrait être soumis au vote le 4 juillet prochain, une étape importante puisqu'elle doit donner une définition et une réglementation à ces substances chimiques suspectées d'être à l'origine de diverses maladies. Présentes dans de nombreux pesticides, plastiques, cosmétiques et conditionnements alimentaires, les perturbateurs endocriniens sont dans le viseur des scientifiques et des consommateurs. C'est le dossier cet après-midi de La Tête au Carré, avec mes invités qui vont répondre à toutes vos questions sur franceinter.fr et sur le mot-clé l'attaque. Axel Villard, bonjour.
Bonjour.
Alors que la canicule est à son plus haut niveau aujourd'hui en France, eh bien une publication qui vient de paraître ne va pas venir adoucir la situation.
Oui, malheureusement Mathieu, puisque d'ici la fin du siècle et si le réchauffement climatique continue, les trois quarts de la population mondiale seront exposés à des vagues de chaleur mortelles. Une étude qui fait donc chaud dans le dos et que l'on commente avec le climatologue Robert Votard.
Et puis nous retrouverons la chronique polémique du docteur Dupagne qui revient aujourd'hui sur le projet de la ministre de la Santé de rendre obligatoire 11 vaccins chez l'enfant. Stéphanie Texier réalise cette Tête au Carré, préparée par Lucie Sarfati avec Benoît Tonson.
Tête au Carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
Les perturbateurs endocriniens dans le dossier dans un instant. Je salue mes invités, la pédiatre endocrinologue Caroline Asselman et l'épidémiologiste Rémi Slama. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Rémi Slama, l'Europe n'est donc toujours pas dotée d'une réglementation sur les perturbateurs endocriniens ?
Alors pour être plus précis, en fait, l'Europe a une réglementation sur les perturbateurs endocriniens depuis de nombreuses années. Depuis 2009 pour ce qui concerne les pesticides, ce qu'il manque jusqu'à aujourd'hui, c'est une définition qui permette d'appliquer cette loi. La réglementation dit si un pesticide contient des perturbateurs endocriniens, il ne devra pas être mis sur le marché. On voit bien que pour pouvoir faire ça, il faut avoir une définition. Et en fait, depuis 2009, la Commission européenne n'a pas réussi à s'entendre avec les États membres pour aboutir à cette définition.
Donc, prochaine étape, le 4 juillet, si tout va bien, parce qu'il peut encore se passer des rebondissements. Caroline Esselman, pas de définition et pourtant des études qui se multiplient sur la présence de ces perturbateurs dans notre organisme.
Alors, la présence, elle est avérée, ça c'est sûr. Les maladies qui pourraient être liées à cette présence, on les voit. Mmh. On a les preuves chez l'animal. Le lien entre les trois, en théorie, on n'a pas le droit de le faire comme ça. Donc après, il y a des études un peu différentes dont on parlera, je pense, qui permettent quand même de prouver que certaines substances sont dangereuses chez l'homme par l'intermédiaire de cette perturbation endocrinienne.
On en parle donc ensemble dans un instant pour faire le tour de la question avec les messages des auditeurs qui nous rejoignent sur le site de l'émission franceinter.fr et puis les réseaux sociaux avec le mot-clé l'attaque. En 2100, 74% de la population mondiale sera exposée à des vagues de chaleur potentiellement mortelles si les émissions de carbone continuent sur le rythme actuel. Voilà ce que nous dit une étude qui est aujourd'hui à la une de la science. Ce scénario macabre est celui de chercheurs de l'université d'Hawaï, publié dans le dernier numéro de la revue Nature Climate Change. Un coup de massue, comme ils le disent d'ailleurs eux-mêmes, après avoir compilé des centaines de bilans publiés après les différentes vagues de chaleur dans le monde entre 1980 et 2014. Robert Votard, vous êtes en ligne avec nous pour en parler. Bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes climatologue, directeur de recherche à l'Institut Pierre-Simon Laplace. 74% de la population exposée donc à des chaleurs potentiellement mortelles. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment on peut comprendre la conclusion de l'étude?
Alors, une exposition ne signifie pas nécessairement un risque. Une exposition signifie que les trois quarts, donc dans ce cas-là, de la population mondiale, va subir des conditions météorologiques, température et humidité, qui sont de façon avérée potentiellement mortelles pour une partie de la de cette population qui serait particulièrement vulnérable de par sa condition.
Alors comment on définit ce seuil? Est-ce que c'est une température? Est-ce que c'est plusieurs critères?
Alors, les chercheurs qui ont réalisé cette étude ont analysé un certain nombre de variables météorologiques et ce qui ressort vraiment en tout premier, c'est la température et l'humidité relative. Mmh. Voilà, donc ce sont ces deux paramètres qui vont permettre ensuite d'établir une relation au-delà de laquelle, donc dans des conditions de température et d'humidité relative, on a pu observer une surmortalité dans les différentes villes de la planète.
Donc une température, une chaleur humide est plus mortelle qu'une chaleur sèche ?
Oui, une chaleur humide est plus mortelle qu'une chaleur sèche, en effet, parce que la façon dont on réagit à l'humidité est différente. On peut transpirer bien mieux dans une chaleur sèche que dans une chaleur humide, ce qui permet de se refroidir. La transpiration a une fonction de refroidissement de la peau et du corps qui marche beaucoup moins bien lorsque l'air est saturé d'humidité.
Alors là, ce chiffre 74%, c'est celui du scénario catastrophe, celui où les émissions de gaz à effet de serre ne changent pas. Est-ce qu'ils ont fait les calculs pour d'autres scénarios ?
Oui, dans les scénarios les plus optimistes, aujourd'hui, on arrive quand même à des chiffres relativement élevés, de l'ordre de 50%, ou un petit peu moins. Donc, de toute façon, on va avoir à faire face à une exposition de la population qui est croissante et qui, même dans le meilleur des cas, va être problématique.
Donc au moins la moitié de la population qui sera donc exposée à ces chaleurs potentiellement mortelles d'ici 2100, Robert Votard. Ces canicules, justement, elles vont devenir plus fréquentes, elles vont devenir également plus chaudes. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui à ce sujet-là ?
Alors, ce que l'on sait, ce que nous prédisent tous les modèles, actuellement, il n'y a pas beaucoup d'incertitudes sur ce sujet. C'est une augmentation de la fréquence des vagues de chaleur, des épisodes très très chauds, mais aussi une augmentation de leur intensité, de leur durée et de leur saisonnalité. On pourra peut-être revenir là-dessus, mais
la ligne a coupé apparemment.
Ça vient juste
avec
de couper.
Robert Votard, peut-être la chaleur qui agit sur les liaisons téléphoniques. On va essayer de le rappeler dans un instant. Rémi Slama, est-ce que vous voulez déjà nous dire un mot sur ces études là sur le réchauffement climatique?
Oui, c'est vrai qu'il y a une sensibilité qui est variable d'une ville à l'autre, et je crois qu'il a été observé que le seuil à partir duquel les effets se manifestent diffère en fonction de la température moyenne de la ville. Une ville qui est habituée à des températures chaudes va commencer à réagir du point de vue des effets sanitaires à des températures beaucoup plus élevées qu'une ville où le climat est habituellement froid.
On a retrouvé Robert Votard.
Oui.
On vous écoute.
Oui, tout à fait. Les conditions dans lesquelles on vit amène à plus ou moins de vulnérabilité par rapport à ces températures extrêmes. Hein, lorsqu'on est dans un logement non conditionné, non avec sans air conditionné sous un toit, on est bien plus vulnérable que lorsqu'on est évidemment plus bas dans les étages avec de l'air conditionné.
Alors, Robert Votard, pour se projeter un peu, même si c'est pas très agréable, si on compare avec la canicule de 2003, qu'est-ce qui nous attend en France jusqu'à la fin du siècle ?
Alors, ce qui est intéressant, c'est de comparer les fréquences attendues ou les probabilités d'une canicule comme celle de 2003 dans le cas d'un réchauffement de 2 ou 3 degrés. Vous savez que 2 degrés, c'est le réchauffement maximum auquel tout le monde espère arriver. On peut difficilement faire moins, mais en pratique, vu la contribution à cet effort de tous les pays telle qu'elle a été définie lors des accords de Paris, on arrive plutôt à 3 degrés. Mmh. Alors, la différence entre 2 et 3 degrés, elle est énorme, parce que dans un climat plus chaud à 2 degrés, une vague de chaleur comme celle de 2003, se produirait plutôt une année sur 10 ou une année sur 20. Dans un climat à 3 degrés, c'est plutôt une année sur 4.
Oui.
Et en termes de température max, est-ce que ça change quelque chose ?
Oui, les températures maximales également sont prévues à la hausse. Donc on s'attend à dépasser fréquemment des records dans les décennies à venir, quel que soit le scénario.
Est-ce que les climatologues et les météorologues vont être capables de prédire ces années extrêmes à l'avance ?
Alors, là, on rentre dans un domaine qui est un petit peu différent. On essaye, bien évidemment, pour différentes raisons, de prévoir quelle sera la température de l'été, en quelque sorte. Alors, c'est un petit peu difficile, parce qu'on sait bien qu'au-delà de quelques semaines, on ne peut plus prévoir les événements de façon individuelle. Mais ce qu'on essaye et ce qu'on espère avoir dans le futur, ce sont des systèmes qui prévoirait un été a plus de chances d'avoir quelques vague de chaleur, on ne sait pas bien quand, en juillet, en août, ou moins de chances que la moyenne. C'est plutôt ce type de prévision qu'on vise. Ça, c'est quand même une information importante, parce que ça peut permettre de se prémunir. Mais aujourd'hui, force est de constater qu'on a beaucoup, beaucoup de mal à le faire et que les prévisions ne sont pas, n'atteignent pas ces qualités-là.
Et pour cet été, Robert Votard, pour terminer avec cette vague de chaleur que nous sommes en train de vivre, est-ce que ça laisse présager justement une canicule pour les deux mois à venir ou pas ?
Alors, a priori, non. Il faut bien avoir conscience que les mouvements atmosphériques sont chaotiques et imprévisibles. En revanche, ce que l'on sait, c'est que un sol sec et une végétation qui a déjà souffert de la sécheresse, si les conditions de l'écoulement sont favorables, peut donner lieu à des températures plus élevées que lorsque le sol serait humide. Donc ça reste très difficile à prévoir, mais ça donne des conditions peut-être un petit peu plus favorables.
Merci beaucoup Robert Votard en tout cas pour ces informations à la suite de cette publication donc qui vient de paraître. On en parlait donc dans la une de la science aujourd'hui. Axel, avec 75% de la population d'ici 2100 exposée donc à des canicules potentiellement mortelles. Merci beaucoup à vous Axel, à demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, pour la première fois, des scientifiques anglais qui parviennent à filmer la réplication de l'ADN, phénomène cellulaire qui a lieu au moment de la division cellulaire. Notre ADN se duplique pour garnir les deux nouvelles cellules. Le film qui peut paraître de piètre intérêt pour un œil non spécialiste est pourtant une première importante puisqu'il a permis à ces chercheurs de découvrir une nouvelle particularité de l'ADN. Les deux brins sont parfaitement autonomes durant la réplication. Un changement de paradigme qui pourrait même entraîner des changements dans les manuels de biologie. En attendant les nouvelles illustrations, eh bien le film est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. L'existence de la 9e planète de plus en plus remise en question. Ce feuilleton autour d'une hypothétique 9e planète cachée au fin fond de notre système solaire et que tout le monde cherche depuis 2015 pourrait bien finir en flop. Une équipe d'astronomes canadiens a analysé en détail les orbites de 8 corps célestes lointains de notre système solaire. À la recherche d'anomalies pouvant trahir la présence de cette fameuse 9e planète, les chercheurs concluent que leurs données vont à l'encontre des travaux publiés en 2015 et qu'elles ne permettent pas de valider la présence d'une planète géante. L'enquête continue avec peut-être qui sait plusieurs corps à découvrir, mais la 9e planète semble s'éloigner de plus en plus. Et puis vous l'avez constaté ces derniers jours, lire sur l'écran de votre téléphone portable en plein soleil est souvent mission impossible à cause de la réflexion très forte de la vitre tactile. Et bien pour pallier à ce problème, une équipe d'ingénieurs américains vient de mettre au point un film anti-reflet en nanostructure inspiré de la surface des yeux des papillons de nuit. En effet, la cornée de ces insectes est recouverte d'une fine surface qui absorbe la lumière et qui leur permet d'éviter toute réflexion oculaire pouvant attirer un éventuel prédateur. Un film prototype transparent a donc été mis au point reflétant seulement 0,23% de la lumière qu'il reçoit. Une innovation qui pourrait aussi préserver votre batterie de smartphone. À suivre donc. Allez, les perturbateurs endocriniens, c'est le dossier dans un instant. Wall of Glass avec Liam Gallagher à l'instant sur France Inter.
La tête au carré sur France Inter.
Les phtalates. Nous y sommes tous exposés. Via le plastique PVC et les rideaux de douche, revêtements plastifiés, tapis de sol, détergents, sprays, tissus imperméables, ballons, films alimentaires, fenêtres, adhésifs écoles, motifs sur vêtements, parfums, cosmétiques comme les rouges à lèvres et vernis à ongles, médicaments, shampoings, après-rasage, gel et laque pour cheveux, gants, zodiac, jouets, matériel hospitalier, tongs, bottes, baskets, semelles, câbles et fils, insecticides, jusqu'aux tuyaux d'arrosage.
Voilà, et la liste pourrait durer encore très longtemps, extrait du documentaire La Grande Invasion de Stéphane Aurel qui avait été diffusé sur France 5 au sujet des perturbateurs endocriniens. Et c'est donc le 4 juillet prochain que la Commission européenne devrait soumettre au vote sa définition des perturbateurs endocriniens, donc ces substances chimiques suspectées d'être à l'origine de différentes maladies. Et en attendant cette définition, en tout cas ces études de plus en plus nombreuses qui mettent en garde contre les effets délétères de ces substances. C'est le dossier de l'émission avec vous Rémi Slama et Caroline Hasselmann. Rémi Slama, vous êtes épidémiologiste environnemental à l'INSERM et vous êtes président du conseil scientifique de ce programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. À la rentrée, vous allez publier un livre avec Denis Caro aux éditions Quai, hein, c'est ça. Les perturbateurs endocriniens, comment affectent-ils notre santé au quotidien? Et puis Caroline Hasselmann, vous êtes pédiatre endocrinologue et membre de l'AFPEL, c'est l'association française des pédiatres endocrino-libéraux. Avec les auditeurs qui nous rejoignent déjà, il y a beaucoup de questions sur le site. C'est un sujet qui interpelle visiblement nos auditeurs. Vous allez y répondre dans un instant. Franceinter.fr est le mot-clé, l'attaque. Quelle est d'abord la vocation de ce programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens, Rémi Slama?
C'est de structurer et d'aider la recherche française sur la question afin de générer des connaissances qui sont utiles aux politiques publiques dans le domaine des perturbateurs endocriniens.
Ouais. Elles sont nombreuses ces études pour l'instant ou pas?
Il y a plusieurs dizaines de projets qui ont été financés depuis au moins 2005, l'année à laquelle le ministère de la Transition écologique et solidaire a lancé ce programme. Mmh. Il y a plusieurs millions d'euros qui ont été mis sur la table pour aider les chercheurs. Mais en fait, quand on regarde la tâche qui est devant nous, on peut considérer que c'est peu et c'est pas un programme qui est si solide que ça. Il y a des vraies questions sur les manières de réussir à pérenniser une recherche forte sur les perturbateurs endocriniens dans notre pays.
Pourquoi la tâche est pharaonique autour de ces substances chimiques?
Écoutez, il y a de l'ordre de 100 000 à 130 000 substances qui sont produites et utilisées en Europe. Parmi elles n'ont pas été toutes testées, mais il y en a probablement plusieurs centaines qui sont actives sur le système endocrinien. Donc, ça fait probablement une certaine proportion qui vont se vérifier comme étant des perturbateurs endocriniens. Ces substances peuvent avoir des effets à différents moments de la vie sur un grand nombre de pathologies du fait que ce système endocrinien, il intervient sur un grand nombre de fonctions. Donc, si on veut vraiment bien les caractériser, il est clair qu'il faut des moyens considérables.
Ouais. C'est quoi le système endocrinien, Caroline Hasselmann? On pourrait peut-être commencer par ça, hein, pour expliquer comment agissent. Mais oui, c'est intéressant puisque c'est votre métier et ça nous permet de comprendre comment agissent ces perturbateurs. Justement.
Donc le système endocrinien, c'est toutes les hormones dans notre corps. Alors les hormones, ce sont des substances informatives qui sont sécrétées par des tout petits organes qu'on appelle les glandes et qui fabriquent des substances qui vont être sécrétées dans le sang. Ces substances vont aller se fixer sur ce qu'on appelle des récepteurs, qui sont des petits éléments à la surface de certaines cellules, qui sont spécifiques en général à la fois d'organes et à la fois des hormones en question. Les hormones, on les appelle à ce moment-là des ligands sur les récepteurs. Une fois que l'hormone est fixée sur le récepteur, il y a en aval du récepteur une cascade d'informations qui se met en place pour arriver au final à l'effet demandé à cette hormone.
Donc ça, c'est quand tout va bien. Hein.
Quand tout va bien.
C'est le mécanisme normal. Hein.
Exactement. Et alors, ces hormones régulent énormément de choses dans le corps humain.
Par
la température, la fréquence cardiaque, la tension artérielle, le taux de sucre, le métabolisme des lipides... La sexualité, la libido par exemple, la puberté, la croissance, énormément, énormément de choses. Ça, ce sont les substances endogènes, c'est-à-dire qu'on fabrique nous-mêmes. Mais on est entouré en permanence et pollué, entre guillemets, par des substances exogènes, donc qui viennent de l'extérieur, ces perturbateurs endocriniens, qui vont avoir des relations étroites avec les récepteurs des hormones naturelles. Ces substances, c'est des substances synthétiques, mais également naturelles. Il ne faut pas mettre tout sur le dos forcément du synthétique, hein. Des substances naturelles.
Qu'est-ce
comme...
qu'on a comme perturbateur endocrinien naturel, par exemple?
Par exemple, et beaucoup de gens ne le savent pas, dans certaines huiles essentielles, et en particulier l'huile essentielle de lavande et d'arbre à thé, le titri, qui est pas mal utilisé, ce sont des perturbateurs endocriniens.
Donc il faut faire très attention sur l'utilisation de ces produits.
Il faut éviter d'imprégner quotidiennement les cheveux des enfants d'huile essentielle de lavande pour prévenir les poux. Ce n'est pas forcément une bonne idée.
Le soja aussi contient des œstrogènes naturels, et c'est pour cette raison qu'on considère qu'il n'est pas du tout recommandé de nourrir son enfant avec... Du lait de soja.
Ouais. Donc ça, c'est le fonctionnement qui peut dévier lié à ces substances.
Parce que quand ces substances se fixent
donc
sur les récepteurs...
ou chimiques.
Tout à fait. Alors, il y en a plus,
qui sont
plus grand nombre qui sont chimiques, évidemment. Quand elles se fixent sur les récepteurs, elles vont avoir une affinité, c'est-à-dire un fonctionnement sur le récepteur qui ne sera pas tout à fait le même que celui de l'hormone endogène. Ouais. Mais qui va quand même provoquer, en général, la même action que l'hormone, alors que l'hormone n'a pas été produite,
donc
puisque le corps n'en avait pas besoin.
Ça mime un petit peu.
Ça peut mimer l'action de l'hormone. Ça peut avoir une action un petit peu différente, c'est-à-dire c'est presque l'action de l'hormone, mais pas tout à fait. Ou ça peut parfois, c'est plus rare, mais bloquer l'hormone parce que ça sature les récepteurs et que l'hormone, du coup, n'a plus accès à son récepteur.
Et c'est là que les maladies commencent à intervenir, quand il y a ce blocage ou pas?
Alors, c'est beaucoup plus complexe que ça, et c'est un des problèmes des perturbateurs endocriniens. On peut être malade des années après avoir été contaminé et après que les récepteurs ont été activés ou désactivés. On sait qu'il y a des périodes de vulnérabilité, en particulier in utero, pendant la petite enfance, à la puberté, qui vont faire que des maladies vont se développer beaucoup plus tard dans la vie.
Et nous baignons dans ces perturbateurs endocriniens, Rémi Slama. On l'entendait dans cette liste tout à l'heure, c'est impossible d'y échapper quasiment.
Voilà. Et on commence à avoir des données de bonne qualité avec la première grande étude de biosurveillance qui a été mise en place par Santé publique France et qui a confirmé que les femmes enceintes françaises avaient des dizaines de substances qui sont des perturbateurs endocriniens suspectés, des retardateurs de flamme, des phtalates, des dioxines.
C'est quoi un retardateur de flamme exactement?
Eh bien, c'est une substance qui est utilisée pour limiter le risque de déclenchement d'un incendie, et c'est utilisé notamment dans le mobilier pour éviter que le canapé prenne feu, ou aussi sur les produits électroniques qui chauffent, là encore pour limiter le risque d'incendie. Sauf que les premiers retardateurs de flamme sont des retardateurs de flamme polybromés, et que ils peuvent perturber notamment l'axe thyroïdien, et des travaux chez l'humain, notamment via la cohorte Pélagie de l'INSERM à Rennes, qui ont été publiés récemment par Cécile Chevrier, montrent des effets de ces retardateurs de flamme polybromés sur le développement neurologique de l'enfant.
Louis, sur Twitter, nous dit « Depuis quand est-ce qu'on connaît l'existence des perturbateurs endocriniens? J'ai l'impression qu'on ne sait pas grand-chose sur eux. » Alors, Rémi Slama, pour répondre sur la première partie.
En fait, on a pris conscience de ces effets de perturbation du système hormonal depuis au moins les années 60 avec le cri d'alerte de Rachel Carson
Le
printemps silencieux avec le DDT et les pesticides organochlorés. Mais le terme de perturbateur endocrinien a été forgé en 1993.
Ouais.
Avec un rassemblement de scientifiques de différentes disciplines.
Carolina Salman, est-ce que dans vos consultations, les parents vous parlent maintenant spontanément de ce problème ou pas?
C'est extrêmement frappant, oui, sur les deux dernières années, voire même sur les derniers mois. Alors en particulier, pas trop sur la consultation de pédiatrie générale, que j'ai également, mais sur la consultation d'endocrinologie, et particulièrement quand les parents viennent pour une puberté précoce. Ça vient spontanément, j'ai même pas à leur en parler. Ils sont déjà renseignés. Ils ont déjà essayé de modifier des choses dans leur environnement pour y échapper un petit peu. Et c'est vraiment eux qui m'en parlent en premier. Ça, il y a un peu plus de deux ans, c'était jamais le cas. Jamais.
On a des leviers d'action, Rémi Slama, à titre individuel ou pas? Dans cet océan de perturbateurs endocriniens?
Moi, j'ai envie de dire que le premier levier d'action et la première protection, elle doit se faire au niveau des pouvoirs publics, parce que c'est eux qui ont les moyens de tester, de naviguer au milieu de ces centaines de substances. Donc c'est le travail des agences sanitaires comme l'ANSES ou ses homologues européennes d'identifier les substances préoccupantes et de les réglementer. Maintenant, les connaissances scientifiques sont pas toujours parfaites et on peut avoir le souhait de se protéger au-delà de ce qui est fait par les agences sanitaires. Mm-hmm. Mais il faut admettre que c'est pas simple parce qu'il n'y a pas aujourd'hui d'obligation d'étiquetage de ces perturbateurs endocriniens nos cosmétiques, dans notre alimentation et dans notre environnement en général.
C'est ce qui est réclamé, entre autres, évidemment, autour de ces produits. On se retrouve dans un instant, la suite de notre discussion avec les messages des auditeurs. De l'ASL de Camille, extrait de son dernier album à l'instant dans notre Tête au carré sur France Inter autour des perturbateurs endocriniens. Y a-t-il des perturbateurs endocriniens dans les packs de lait, Rémi Slama? Est-ce qu'il faut s'inquiéter pour...
Il y en a dans le lait maternel, qui est contaminé par les polluants organiques persistants.
Les
PCB, oui, malheureusement, ce liquide qui devrait être le plus pur de tous est contaminé du fait de la contamination de notre alimentation par des polluants persistants. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas allaiter.
Oui, voilà.
Je vois Caroline SMA qui commence à bondir sur le micro. Pourquoi ?
Parce que l'allaitement reste jusqu'à présent vraiment la meilleure alimentation pour le bébé. Je crois qu'il faut surtout laisser le choix aux femmes de ce qu'elles ont envie de faire pour leur bébé. Il y a des perturbateurs endocriniens dans le sang du cordon. Il y en a dans le liquide amniotique. C'est vraiment ubiquitaire.
Catherine nous dit les emballages plastiques souvent décriés. Dans quelle mesure l'eau en bouteille peut-elle devenir potentiellement dangereuse, Rémi Slama?
Alors, à ma connaissance, il n'y a pas de perturbateurs endocriniens dans l'eau en bouteille. Le polycarbonate et le bisphénol A, c'était présent dans les grosses fontaines à eau. Et ça a maintenant été interdit du fait qu'en France, on n'a plus de bisphénol A dans les contenants alimentaires.
Ouais, mais quelle différence entre une fontaine à eau et une autre petite bouteille?
En fait, c'est pas la même matière. Si vous regardez en dessous, le composé, ça s'appelle le PETE. Qui n'est pas du polycarbonate dans ces petites bouteilles d'eau. Et je dis pas qu'il y a absolument pas de préoccupation. Le plastique des bouteilles d'eau contient notamment de l'antimoine qui pourrait être relargué, notamment si on stocke l'eau dans des grandes chaleurs l'été. Mmh. Et l'antimoine qui est pas une substance innocente, loin de là.
Donc, a priori, pas trop d'inquiétude sur nos
bouteilles.
Non,
c'est pas la source d'exposition, mm-hmm. C'est pas une source d'exposition aux perturbateurs endocriniens identifiés. Ouais.
Alors, quelles sont les sources principales à surveiller de très près, là, pour le coup?
Alors, sur le plan individuel, il va y avoir trois grands secteurs où, où on peut surveiller, et surtout les gens, on incite les gens à appliquer un principe de précaution, puisqu'il n'y a pas de preuve pour chaque molécule. Mm-hmm. Et qu'en plus, ils ne vont pas réussir à les trouver, comme le disait Rémi Slama tout à l'heure.
D'étiquetage.
Exactement. En général, on s'oriente sur trois grands secteurs qui sont l'alimentation, la cosmétique et l'hygiène, et l'ameublement, le nettoyage de la maison, les choses comme ça. Où là, on explique dans chaque domaine aux gens des petites mesures qu'ils peuvent prendre. La plus connue, probablement, c'est le fait de ne pas réchauffer ses aliments dans un contenant en plastique au micro-ondes.
Par exemple.
Voilà. Ça, les gens sont assez... assez au courant de ça déjà pour le moment. Mais après, on a plein d'autres petites mesures qu'on peut appliquer progressivement chez les gens qui ne bouleversent pas trop la vie, mais qui pourraient éventuellement réduire les expositions.
Rémi Slama, ces molécules chimiques, donc ces perturbateurs endocriniens, ils peuvent agir à titre individuel et puis également par effet cocktail ?
Oui, l'effet cocktail, c'est une vraie préoccupation. C'est pas une spécificité des perturbateurs endocriniens parce que c'est quelque chose qu'on connaît par ailleurs, mais il est probable qu'il y ait de nombreux certains perturbateurs endocriniens qui agissent par effet cocktail. Il y a plusieurs mécanismes possibles. L'un d'entre eux, ce serait si vous ingérez une substance qui va perturber les voies qui métabolisent les xénobiotiques, ça va faire que ce xénobiotique, ce contaminant extérieur, qui normalement va être dégradé par l'organisme, ne va plus l'être. Donc là où vous avez une dose de 1, votre organisme ne va pas réussir à s'en débarrasser et ça va s'accumuler. C'est connu par exemple pour le jus de pamplemousse qu'on recommande de ne pas consommer quand on prend des médicaments. Et puis, on peut citer un autre mécanisme qui a été mis en évidence récemment par les équipes CNRS et INSERM de William Burguet et Patrick Balaguer à Montpellier, selon lequel, en fait, des substances qui, chacune individuellement, ne sont pas capables de se lier au récepteur nucléaire et de rentrer dans la poche dans laquelle, normalement, l'hormone se fixe, quand elles sont présentes toutes les deux, forment ce qu'ils appellent un ligand supramoléculaire qui va, lui, s'adapter parfaitement à la poche de ce récepteur nucléaire et donc déclencher un signal et faire croire à la cellule que l'hormone est présente, alors que c'est simplement la combinaison de deux molécules étrangères.
Difficile donc d'échapper visiblement aux perturbateurs endocriniens, même lorsqu'on a une vie plutôt saine. Écoutez le cas de José Bové au micro de Franck Cognard, c'était en février dernier.
Quand on est venu me couper une mèche de cheveux au Parlement, je me disais, j'essaye de vivre sainement, de manger correctement. Et donc, je me suis dit, il y en aura peut-être, mais peut-être pas beaucoup. Quand j'ai regardé la liste, je me suis dit, mais c'est pas possible. 3 PCB, 11 plastifiants, des pesticides, alors que j'en ai jamais utilisé sur mon exploitation agricole. Et donc, évidemment, il suffit qu'il y ait une bombe qui soit passée pour les insectes, dans les moquettes, dans les bureaux souvent, au Parlement européen ou ailleurs, et pourquoi pas Radio France. Donc, en fait, personne aujourd'hui n'est indemne. Et on ne peut pas ne pas faire le lien entre la multiplication très importante des cancers et de beaucoup de maladies avec effectivement le fait que chacun est aujourd'hui un porteur de dizaines de molécules chimiques dangereuses et qui toutes aujourd'hui sont reconnues comme étant des véritables poisons.
Voilà, Rémi Slama, même dans les cheveux de José Bové, ces perturbateurs endocriniens, qui l'eût cru ?
Bah oui, c'est le résultat en fait de la logique de réglementation de ces produits chimiques qui se fait essentiellement sur une logique d'une dose limite. C'est-à-dire que on considère, et les toxicologues réglementaires considèrent qu'ils sont capables d'identifier une dose limite en dessous de laquelle on peut être identifié sans danger à telle ou telle substance. Mais il faut admettre que cette logique est décriée dans le contexte notamment des perturbateurs endocriniens pour plusieurs raisons, notamment parce qu'on sait que les hormones naturelles agissent à des concentrations extrêmement faibles, d'une part pour un milliard, voire en dessous. Donc il n'est pas du tout clair, et il est même peu probable que des doses sans effet existent systématiquement pour les perturbateurs endocriniens. Et puis l'effet cocktail aussi, qui fait qu'en fait, une dose qui peut apparemment être sans danger quand la substance est seule, devient dangereuse quand elle est accompagnée d'autres perturbateurs endocriniens. Eh bien, toutes ces raisons font que cette logique de la dose limite qui gouverne la réglementation de beaucoup de substances est peu susceptible d'être pertinente pour les perturbateurs endocriniens. Et d'ailleurs, la réglementation sur les pesticides que l'Europe a du mal à appliquer, elle sort de cette logique sur la dose limite pour aller vers une logique d'exposition zéro en interdisant tous les pesticides qui contiennent des perturbateurs endocriniens ou des cancérigènes.
Caroline Selman.
Oui, il y a une vraie différence avec les autres toxiques qui nous entourent. Des très très petites doses, selon la période de la vie où la personne est exposée, vont avoir un effet important, comme on le disait tout à l'heure, même à un temps éloigné de l'exposition. Et puis, c'est difficile à étudier aussi parce qu'il faudrait étudier vraiment le résultat, non pas d'un seuil d'hormone, d'un taux d'hormone, mais le résultat de la fixation de cette hormone sur son récepteur. Et ça, c'est des choses qui sont vraiment difficiles à étudier en recherche. La période de sensibilité va dépendre aussi du nombre de récepteurs qui sont disponibles. Parce que, par exemple, sur l'hypophyse, on ne va pas avoir le même nombre de récepteurs à certaines hormones pendant la vie fœtale, pendant la petite enfance, pendant l'adolescence. Pendant la petite enfance, les enfants ne sont pas censés être exposés à des œstrogènes, par exemple. Ouais. Donc, ils n'ont pas beaucoup de récepteurs. Mais quand ces récepteurs sont stimulés par les perturbateurs endocriniens, ça provoque des problèmes.
Est-ce qu'on peut se faire dépister à titre individuel pour savoir quel est notre taux, justement, de perturbateurs endocriniens ?
Je ne crois pas. Il ne me semble pas.
Vous pouvez toujours trouver des laboratoires qui sont capables de doser ces substances.
Mais vous n'aurez pas d'interprétation derrière.
Voilà, c'est extrêmement compliqué. En fait, ça a du sens, par contre, au niveau individuel, et c'est pour ça que ces études de biosurveillance sont très utiles. Si on a l'information à l'échelle de l'ensemble de la population, on peut prédire le risque sanitaire attendu en termes de pathologie, troubles du neurodéveloppement, problèmes de croissance, cancer, liés à ces substances, et estimer l'impact global pour la société, pour aider les pouvoirs publics à hiérarchiser ces problèmes. Et ça a été fait pour les perturbateurs endocriniens, avec l'estimation que le coût sanitaire induit par l'exposition aux perturbateurs endocriniens en Europe est de l'ordre de 100 à 200 milliards d'euros chaque année, c'est-à-dire environ 1% du produit intérieur brut européen.
Ouais, il y a la ville de Grand Santé qui nous envoie ce message sur le territoire industriel du Dunkerquois qui va lancer en septembre la plus grande étude jamais réalisée, 400 personnes, 200 adultes et 200 enfants, en proposant à sa population de se faire dépister gratuitement, volontairement. Et il souhaite, avec cette étude, contribuer à faire pression sur les décideurs et les industriels. C'est le service de communication de la ville qui nous envoie ce message. Initiative qui vous paraît intéressante à mener ?
Oui, enfin, pour moi, ça ressemble à ce qui est fait dans les agences sanitaires comme Santé publique France, qui est en charge de ces campagnes de biosurveillance. Mais avoir des données précises dans une zone spécifique qui peut avoir des problèmes de contamination et peut être tout à fait intéressant, effectivement.
Allez, la suite de notre dossier dans un instant et vos réponses aux messages des auditeurs et leurs questions. Franceinter.fr. Save Tonight, Eagle Eye Sherry.
La tête au carré, jusqu'à 15h, sur France Inter.
Les perturbateurs endocriniens au cœur de notre dossier. Rémi Slama, épidémiologiste à l'INSERM, et Carolina Selman, pédiatre endocrinologue, avec vos questions nombreuses qui arrivent sur le site de l'émission. Le 4 juillet, donc, Rémi Slama, pour l'espoir d'un vote et d'une définition à l'échelle européenne autour des perturbateurs.
On verra, mais enfin, ça
c'est bien compliqué d'y arriver, en tout
oui,
cas. Hein.
Oui, oui, ouais. Et c'est pas pour des raisons scientifiques. La loi a été votée en 2009 par le Parlement européen. Ce n'est pas parce que les scientifiques n'arrivent pas à proposer de définition qu'en 2017, cette définition n'est pas là.
C'est parce elles sont prêtes, les définitions sont prêtes.
Voilà, l'Organisation mondiale de la santé en a proposé une dès 2002. En fait, la situation, c'est que les mesures de gestion, c'est-à-dire l'interdiction des pesticides qui contiennent des perturbateurs endocriniens, ont déjà été décidées en 2009 et probablement certains États veulent-ils profiter de la définition des perturbateurs endocriniens pour amoindrir les conséquences de cette loi. Donc c'est un mélange entre l'identification des dangers qui devrait être faite par les scientifiques et la gestion du risque qui est dans les mains des politiques.
Ouais.
C'est vraiment un processus qui est pollué.
Caroline Hasselmann.
Avec énormément de pression des lobbies industriels.
Évidemment.
Qui sont derrière, qui entretiennent une espèce de manufacture du doute là, en publiant des contre-articles sur des articles qui prouvent la nocivité des perturbateurs endocriniens. C'est un vaste chantier.
C'est quand même un problème de santé publique inouï, ça, non ?
Oui. Hein ? Oui, définitivement.
Avec ce mensonge colporté en permanence ?
Ouais, ça rappelle peut-être un petit peu ce qui se passait dans les années 50 avec
le tabac. Rémi Slama, vous êtes d'accord avec ça ?
On entend parfois des gens dire qu'on agit en permanence en suivant le principe de précaution et qu'on prend des décisions à considérer trop tôt. En fait, quand on regarde les choses avec un peu de recul, on se rend compte que c'est très 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 rarement le cas. Il y a très peu de décisions hâtives et au contraire, on est extrêmement prudent. Les pouvoirs publics sont extrêmement prudents à prendre des décisions. On a attendu 2000 pour bannir internationalement les polluants organiques persistants et ils sont encore là dans notre environnement. Le bisphénol A a été interdit en France comme dans les contenants alimentaires. En 2012, par le Parlement, la mesure avait été un peu critiquée. Puis la semaine dernière, on voit que l'Agence européenne des produits chimiques, l'ECHA, reconnaît, à la suite de l'instruction de l'ANSES, l'Agence de sécurité sanitaire de l'environnement française, que le bisphénol A est un perturbateur endocrinien et est une substance extrêmement préoccupante. Donc en fait, on est plutôt à la traîne, en général, derrière les connaissances scientifiques, que à prendre des décisions trop rapides au nom du principe de précaution.
Quelle est la position de la France, justement, sur la question Libération titrée, l'absence de position officielle du nouveau ministre de la Transition écologique, Nicolas Hulot, inquiète aujourd'hui, Caroline Hasselmann.
Alors, je ne sais pas quelle est sa position, mais Rémi Slama l'a rencontré il n'y a pas longtemps, il va pouvoir nous dire. Je trouve, en revanche, que l'équipe précédente était vraiment au fait des problèmes des perturbateurs endocriniens. Et la France a été un des pays à porter la Commission européenne devant la Cour européenne de justice, avec la Suède, le Danemark et la Finlande, peut-être, parce qu'ils n'arrivaient pas à proposer cette définition dans le timing qui leur avait été demandé.
Qu'est-ce que vous a dit Nicolas Hulot, Rémi Slama, alors la semaine dernière ?
Il est en train de consulter sur cette question et effectivement, je crois que la France réfléchit à la position adoptée face aux propositions qui sont faites par la Commission européenne et qui sont, du point de vue des scientifiques, vous l'avez rappelé en ouverture d'émission, pas satisfaisantes dans la mesure où il y a des clauses qui vont faire qu'on va ignorer des connaissances sur des pesticides, notamment un pesticide qui va être développé spécifiquement pour perturber le système endocrinien des insectes ciblés, eh bien ne sera pas pris en compte comme perturbateur endocrinien tout de suite et on ignorera que le pesticide a été vraiment développé pour être un perturbateur endocrinien, ce qui est une exclusion tout à fait aberrante et qui n'a pas de sens scientifiquement.
Caroline Hasselmann, des études sur l'homme, on en dispose vraiment aujourd'hui parce qu'on a l'impression qu'on travaille surtout sur l'animal et qu'on a difficulté à avoir des conclusions sur les effets délétères des perturbateurs sur l'organisme humain.
Le problème, c'est qu'on peut pas utiliser les mêmes études que ce qu'on fait généralement pour avoir une preuve scientifique solide.
Pourquoi ?
Parce qu'on peut pas prendre un groupe de personnes, les retirer de l'environnement plein de perturbateurs endocriniens, tirer au sort un autre groupe de personnes et les plonger dans un milieu plein de perturbateurs endocriniens et voir ce qu'il en ressort. Voilà, ça on peut pas le faire chez nous.
Voilà, mais il y a quand même une approche chez l'humain qui est l'approche des cohortes épidémiologiques. On en a quelques beaux exemples en France. J'évoquais tout à l'heure Pélagie ou la cohorte Eden. Il y en a dans le monde entier. Le principe, c'est de garder les gens dans leur environnement, effectivement, et de voir si les gens qui sont les plus exposés à ces perturbateurs endocriniens, parce qu'on arrive maintenant à faire la différence entre quelqu'un qui est un peu exposé, moyennement ou très exposé, eh bien si ces gens les plus exposés sont ceux qui sont le plus à risque de maladie. C'est par exemple avec cette approche qu'il a pu être montré que les femmes qui ont été exposées précocement pendant leur grossesse au DDT avaient un risque accru 50 ans plus tard de cancer du sein.
Et on est une très grande majorité à trouver ça absolument convaincant et à être persuadé que c'est une réalité scientifique. Mais il reste quelques scientifiques qui sont liés en général, qui ont des conflits d'intérêts avec l'industrie, qui de temps en temps reviennent dire que ce ne sont pas des preuves assez solides. Mais je pense que la majorité de la communauté scientifique admet ces études pour des preuves solides.
Vous nous donniez des chiffres, Caroline Hasselmann, pour préparer cette émission. 1995, 4 publications sur les perturbateurs endocriniens. 2014, 857. Probablement plus encore aujourd'hui, Rémi Slamard.
Ah oui, 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 effectivement, des substances comme le bisphénol A, il y a plusieurs centaines d'études chaque année. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que c'est
Qui vont toutes dans le même sens ou est-ce qu'on a des études contradictoires aussi?
Alors en fait,
il y a toujours des études contradictoires, non?
Voilà,
tout dépend aussi de qui commande l'étude, mais...
Effectivement, on a pu se rendre compte dans le cas des perturbateurs endocriniens, comme dans le cas du tabac, que les études indépendantes avaient plus de chances de conclure à un effet néfaste de la substance que les études qui étaient soutenues par quelqu'un qui avait un intérêt financier en lien avec les perturbateurs endocriniens. Maintenant, la question est extrêmement compliquée, donc il n'y a pas forcément, toutes les études ne s'appuient pas sur les mêmes modèles animaux, ne sont pas sur les mêmes gammes de doses, dans la même situation d'exposition, donc elles ne vont pas toutes dans le même sens. Maintenant, l'important, c'est la synthèse de ces études qui est faite par les agences sanitaires et qui sont, pour certaines substances, extrêmement convaincantes. Pour reprendre l'exemple du bisphénol A, il faut bien être conscient du fait qu'on a un grand nombre d'approches. Des études au niveau moléculaire qui nous montrent que le bisphénol A va interagir avec plusieurs récepteurs nucléaires. Des études de toxicologie qui nous montrent que le bisphénol A va affecter la fertilité, le comportement, l'anxiété des animaux. Et c'est confirmé par des études chez l'humain, qu'il va pouvoir prédisposer à la survenue de certaines tumeurs mammaires, qu'il va pouvoir altérer la fonction cardiaque. Et dans ce champ-là, on a même des études expérimentales chez l'humain, parce qu'on parlait des études chez l'humain qui sont surtout observationnelles. On peut, dans certains cas, faire des études à court terme qui sont expérimentales et qui apportent un niveau de preuve très faible. On voit aussi des effets, c'est le travail d'Éric Oudot, du bisphénol A, sur la perméabilité intestinale. Donc on a des données extrêmement cohérentes entre la toxicologie, l'humain et des fois l'échelle moléculaire sur les effets de beaucoup de perturbateurs endocriniens.
Question de Claire sur l'éventuel effet des perturbateurs sur le retard mental. Donc il y a des travaux là-dessus, Caroline Hasselmann.
Oui, c'est Barbara Domenech qui a beaucoup travaillé là-dessus. Je crois que vous l'avez accueilli il n'y a pas très longtemps. Effectivement, par le biais de perturbations au niveau des récepteurs thyroïdiens, parce que la thyroïde a une grande influence sur le développement du cerveau in utero, il y a probablement des explications aux augmentations actuelles de cas d'autisme, de troubles d'hyperactivité avec troubles de l'attention, qui pourraient être expliquées par des perturbations endocriniennes chez la maman pendant la grossesse.
Il nous reste 30 secondes. La meilleure façon de se protéger, si tant est qu'on puisse vraiment s'en protéger aujourd'hui, ce serait quoi ?
S'informer, déjà. Consulter éventuellement, il y a l'AFPEL, on va sortir à la rentrée une petite fiche que vous pourrez éventuellement mettre en lien pour des choses pratiques. Savoir que quand on achète des fruits et des légumes, il faut les éplucher quand ils ne sont pas issus de l'agriculture biologique. Éviter les plastiques et regarder ce qu'il y a sur les étiquettes quand on peut.
Rémi Slama, une recommandation très vite pour terminer.
Moi, vous permettrez de prêcher pour ma paroisse, à savoir, il faut donner des moyens à la recherche scientifique pour... faire en sorte que on puisse décider sur ces substances avec un bon niveau de preuves.
Merci beaucoup en tout cas à tous les deux. Merci aux auditeurs pour les questions. Et puis donc peut-être le 4 juillet, une définition à l'échelle européenne. Merci beaucoup d'être venu dans La Tête au Carré.
France Inter, santé polémique avec le docteur Dominique Dupagne.
Attention, je vais piquer.
Et nous retrouvons notre piqueur officiel. Bonjour Dominique.
Bonjour Mathieu.
Quelle polémique a retenu votre attention cette semaine ?
J'avais gardé quelques sujets au chaud, mais une bombe est tombée la semaine dernière. Agnès Buzyn envisage de rendre obligatoire 11 vaccins chez l'enfant.
Ministre de la Santé, alors, vous êtes contre les vaccins, Dominique ?
Pas du tout. Au contraire, la vaccination est un progrès majeur. Et c'est justement pour ça que je suis très opposé à l'obligation vaccinale.
Ah bon ? Pourquoi ?
Parce que face à un problème, la première idée simple et évidente qui vient à l'esprit est souvent un piège. Et le problème de la vaccination, c'est celui d'une crise de confiance liée aux maladresses répétées de nos autorités sanitaires, maladresses qui ont apporté du crédit au discours complotiste des militants anti-vaccinaux. Je parle bien des militants finalement peu nombreux et non des innombrables Français dont les questions légitimes restent sans réponse satisfaisante.
Alors pourquoi ce doute exactement ?
Bah vous savez, vendre entre guillemets la vaccination au 21e siècle, c'est vraiment pas facile.
Ah hein. Oui, c'est vrai. Ouais.
Bah les maladies concernées ont quasiment disparu, donc la motivation qui était liée à la peur s'est émoussée et l'angoisse de l'ingestion d'un produit pharmaceutique à son bébé ou avec ou sans perturbateur endocrinien ne fait que croître face à l'accumulation de scandales pharmaceutiques. Et puis enfin, les autorités sanitaires ont été prises en flagrant délit de mensonge lors de la pandémie de grippe H1N1 en 2009. Non, la grippe n'a pas tué les enfants en masse, et oui, le vaccin a eu quelques effets indésirables. Enfin, Marisol Touraine a lancé fin 2016 une vaste opération de concertation destinée à restaurer la confiance dans la vaccination. Deux jurys, après des mois de travail, ont pointé du doigt le déficit d'informations objectives sur les vaccins. Le jury citoyen n'a pas réussi à se prononcer sur l'intérêt d'une obligation vaccinale étendue, alors que le jury des professionnels de santé s'y est déclaré défavorable, préférant une responsabilisation des citoyens. Ça n'a pas empêché les organisateurs de la concertation de proposer à la ministre l'extension de l'obligation vaccinale à 11 maladies, trahissant ainsi les jurys qu'ils avaient pourtant eux-mêmes constitués. Mmh. On est passé finalement de circuler, il n'y a rien à voir, à cause toujours, tu ouais. m'intéresses.
On en avait parlé à l'époque, hein. C'était assez énorme.
C'est même, énorme, hein. Et ouais. puis c'est très grave, parce que aucun pays occidental, en dehors de l'Italie et de la France, n'a choisi d'infantiliser à ce point ses citoyens. Par ailleurs, les pays qui laissent le choix de la vaccination aux parents ont plutôt une couverture vaccinale globale meilleure que la nôtre. En fait, si on décode le discours, voilà ce que disent les experts aux Français. Vous êtes des ignares prêts à gober n'importe quoi, vous n'êtes pas capable de faire les bons choix, alors que nous, experts, savons ce qui est bon pour vous et vos enfants, faites-nous confiance et ne discutez pas sous peine de sanction. Bah, si vous transposez ce discours en politique, vous obtenez mot pour mot la justification de tous les régimes totalitaires et on ne peut pas dire que l'Argentine, le Chili ou l'URSS aient constitué des modèles convaincants. Eh bien, il en sera de même s'il y a une obligation vaccinale étendue. La défiance, finalement, sera généralisée. Et même si, bien sûr, quelques vies supplémentaires sont sauvées dans un premier temps, ses conséquences seront dramatiques à terme.
Avec des détails et des liens sur la page de votre chronique, hein, Dominique, sur franceinter.fr.
Absolument.
À la page de la Tête au Carré. Merci beaucoup, on se retrouve la semaine prochaine.
À jeudi.
Pour la dernière de la saison.
Et
merci
oui.
beaucoup. Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Mathieu.
Affaires sensibles.
Aujourd'hui on va parler des minguettes, de la révolte de cette banlieue. Les minguettes qui étaient un peu la matrice des émeutes urbaines que nous avons connues encore et que nous connaissons aujourd'hui et du problème général des banlieues. Nous en parlerons évidemment avec notre invité, le sociologue Adil Jazouli, spécialiste des banlieues, des quartiers populaires et des politiques publiques qui s'y mène depuis 35 ans.
À tout de suite.